Seigneur notre Dieu, je te remercie ce matin pour ce culte que nous te rendons. Nous te rendons gloire, nous te rendons la louange. Nous nous mettons devant toi en soumission, sachant que tu es un bon Dieu et que tu nous conduis dans la vérité et que tu nous conduis en toutes choses. Merci Jésus pour toutes ces merveilles que nous vivons en ce moment. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Merci de bénir ta parole ce matin dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui viennent nous rejoindre sur Internet. Que cela les aide à être sages et à avoir un bon discernement. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, on se croirait à Fairmount ce matin, avec le pasteur Kinnaman, mon ami là-bas, qui m'a envoyé une bonne nouvelle ce matin. Il est formidable. C'est lui qui est, c'est un pasteur à la retraite, un pasteur des Assemblées de Dieu, et il est le gardien, pas seulement le gardien, mais le directeur du musée de James Dean, et il m'a annoncé la bonne nouvelle, c'est que ça y est, tous les téléfilms de James Dean sont mis sur DVD, et c'est bientôt disponible, il va y avoir 3 DVD. Alors c'est des films, vous savez, c'est des téléfilms, ça n'a pas une très très grande valeur, sinon pour ceux qui aiment bien James Dean. Mais vous allez le voir avec jouant avec Ronald Reagan, avec tous des vieux acteurs comme ça, c'est très drôle, c'est passionnant, c'est bien. C'est bien, il faut aussi se réjouir de ces choses-là, surtout que James Dean est un frère, il faut que vous sachiez ça, ceux qui ne savent pas, eh bien c'était un frère dans la foi, je suis allé dans l'église où il allait régulièrement. Et bon, voilà, j'ai rencontré sa famille, ce sont des véritables chrétiens. Born again, comme on dit aux États-Unis, né de nouveau, comme nous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, donc c'est réjouissant. C'est bien, c'est bien. Ce matin, nous disons un bonjour particulier à Marie-Claire et Philippe.
Bonjour.
Nos Josué et Caleb là-bas, et ils sont en train de préparer tout pour nous. Et c'est très, 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 très encourageant. Nous sommes très heureux. Ouh ! Alléluia, moi ça me remplit de joie. Lisons Matthieu chapitre 16. Versets 13 à 19. Vous avez vu, hein? Nous, on n'est pas divisés, hein? On est toujours tous là. Gloire à Dieu. Matthieu 16, 13, 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Les autres, que tu es Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelque temps plus tard, il a donné ce pouvoir à tous ses disciples, et c'est un pouvoir qui nous est donné aussi à nous, qui sommes enfants de Dieu, de lier et de délier sur la terre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis nous, pas n'importe quel chrétien, les disciples, hein, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment consacrés au Seigneur et qui ne se prennent pas simplement pour des gens consacrés. Donc, quand il dit, moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, alors vous pouvez penser ce que vous voulez, ça ne me gêne pas. Mais moi, je sais, par le Saint-Esprit qui est en moi, que Jésus est en train de dire, toi, tu es Pierre. Mais sur cette pierre, c'est-à-dire la révélation que tu viens d'avoir, je bâtirai mon Église. Vous pouvez dire amen à ça ?
Amen.
La révélation est le fondement de l'Église de Jésus-Christ. C'est par révélation. Révélation. Ceux qui rejettent les révélations concernant ce que Dieu établit et rétablit dans son Église vont avoir des problèmes très sérieux parce que les portes de l'enfer prévaudront contre eux. C'est ce qui est écrit là. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre ceux qui croient dans ces révélations, mais elles prévaudront contre ceux qui n'y croient pas. Pierre avait eu la révélation que Jésus-Christ était, que Jésus était le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et pour nous chrétiens du 21e siècle, ça paraît évident. Même quand on n'était pas chrétien, on disait Jésus, le Fils de Dieu, voilà, même si on n'y croyait pas, parce que c'est dans la coutume, c'est dans la tradition judéo-chrétienne, on le sait que, voilà. Mais à l'époque, penser une chose comme celle-là relevait du blasphème au regard des religieux. Des religieux. Pierre a donc pris un très grand risque, un risque terrible, en affirmant cette révélation qu'il avait reçue. Et je vous le dis en vérité, mes frères et sœurs, quelle que soit la révélation que Dieu donne, eh bien, elle dérange toujours les esprits contraires, c'est-à-dire les esprits religieux. Des esprits qui aiment Dieu, mais qui sont contraires, anti. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Sur la révélation, c'est sur la révélation que Jésus-Christ est le Messie et qu'il est le Fils de Dieu que l'Église est bâtie, établie. C'est son fondement sur une révélation. Et tout l'édifice est construit par la révélation. Et quand des choses sont oubliées, eh bien Dieu les révèle de nouveau. Et c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se produire dans notre époque. Et tous ces eschatologues et tous ces prophètes, entre guillemets, ne citent jamais ce texte qui dit que Jésus ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Ils ne citent jamais ce texte. Ils ne le voient pas. Ils le lisent, mais ils ne le voient pas. Cela ne leur est pas révélé. Ah, par contre, ils voient que la planète machin est alignée avec la planète truc. Oh là 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 là. Ce qui prouve que, bon... Quel malheur, quel malheur. sur une révélation. Tout l'édifice est construit par révélation. Et ce que nous sommes, nous savons ce que nous sommes. Cela nous a été révélé à nous, mais cela n'est pas révélé au monde. Cela n'est pas révélé encore au monde. Et ceux qui sont les réelles pierres vivantes de l'édifice, ceux-là sont véritablement protégés. Les autres sont, non pas des pierres vivantes, mais des briques. Vous vous rappelez ? Je faisais allusion à quoi en parlant de briques ? À la tour de Babel. La tour de Babel n'était pas faite avec des pierres, mais avec des briques. L'église de Jésus-Christ, elle est faite avec des pierres vivantes. Et nous sommes ces pierres vivantes. Amen. Les portes du séjour des morts ne prévalent pas contre nous. Alléluia,
Alléluia.
Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Une parole de Raphaël. Mais que signifie prévaloir ? Eh bien, c'est un mot français dont la signification se trouve dans les dictionnaires. Prévaloir signifie avoir plus d'importance, avoir l'avantage ou l'emporter sur. Ceux qui refusent les révélations ne sont pas à l'abri contre le séjour des morts. Le séjour des morts peut avoir l'avantage sur eux. Le séjour des morts peut l'emporter sur eux. Hein, la tour de Babel, elle n'a pas tenu longtemps. Hein. Ils ont été divisés. Pouf ! Ah, pourtant, ils construisaient ensemble, ils s'aimaient tellement, n'est-ce pas ? Et nous, on était les autres, là, hein, rien du tout. Mais le séjour des morts ne peut pas l'emporter, ne peut pas avoir l'avantage sur la véritable Église de Jésus-Christ, fondée et construite sur la révélation avec des pierres vivantes et non pas des briques. Amen.
Amen.
Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous exhorte tant à contrôler vos pensées, parce que les révélations viennent par la pensée. Hein ? Ça vient par la pensée. Comment contrôler nos pensées ? Comment discerner si une révélation vient de Dieu ou pas ? Comment savoir d'où vient l'inspiration que nous avons ? Alors, je vais vous dire quelque chose qui ressemble à une lapalissade. Penser, c'est créer une pensée. Le résultat de la pensée dépendra de sa forme, de sa qualité et de sa vitalité. Je vais analyser ça pour vous expliquer comment on peut discerner avec trois critères si une pensée, une révélation vient de Dieu ou pas. La forme d'abord. Est-ce que la pensée qui vous vient a les profondeurs ? Est-ce que la pensée qui vous vient a la profondeur ? Est-ce qu'elle a de la profondeur ? Est-ce qu'elle rejoint la profondeur de la pensée de Dieu écrite ? Par exemple, Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Mais où est-ce qu'il a été chercher ça ? C'est le pire blasphème qu'on puisse dire en pays juif. Où est-ce qu'il a été chercher ça ? Les juifs ne pouvaient absolument pas imaginer que Dieu avait un fils. D'ailleurs, ils ne peuvent toujours pas l'imaginer. Qui pouvait imaginer ça ? Seuls ceux qui aiment et respectent toute l'Écriture. Parce que vous avez des gens qui vous disent « j'aime toute l'Écriture » mais qui ne la respectent pas. Qui mettent en doute, qui disent « non, j'ai une interprétation. » Voilà. Mais ceux qui aiment et respectent toute l'Écriture, voilà, Pierre en faisait partie, ils connaissaient un texte que beaucoup de religieux connaissaient mais ne respectaient pas. Pierre avait dû entendre à la synagogue ou quelque part le texte de Proverbe 30, verset 4, qui dit « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu ?» L'apôtre Paul reprend ce texte au sujet de Jésus qui est descendu des cieux, qui est allé même en dessous pour aller dans le séjour des morts et en faire sortir les captifs. Vous vous rappelez de ça ? Et c'est dans ce texte-là qu'il a pris ça. « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu ?» Qui a recueilli le vent dans ses mains ? Qui a serré les eaux dans son vêtement ? Qui a fait paraître toutes les extrémités de la terre ? Quel est son nom ? Et quel est le nom de son fils ? Le sais-tu ? Donc, vous voyez bien que là, il y a une révélation. Le nom du Créateur, quel est son nom ? Et quel est le nom de son fils ? Ah bon ? Voilà que quelqu'un avait la révélation que Dieu avait un fils. Eh bien, Pierre, lui, ayant entendu la parole, la profondeur de la parole, a rejoint sa propre profondeur. Vous comprenez ? Et voilà que c'est sorti comme ça. Alors que d'autres l'ont lu mille fois et n'ont vu que des mots alignés, un peu de poésie ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils n'avaient pas de profondeur en eux. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non! Mais qui nous foutent la paix! C'est pas d'eux qu'on va apprendre quelque chose. Ah, le baptême pour les morts. J'ai été lire sur Internet au sujet des baptêmes pour des morts et j'ai vu que c'est pas biblique. Ben évidemment, c'est des gens qui n'y croient pas, qui écrivent ces articles-là. Mais lisez votre Bible. Les premiers chrétiens y croyaient. L'apôtre Paul n'est pas contre. Amen ou pas? Amen. Et ça s'est pratiqué, lisez aussi l'histoire, ça s'est pratiqué jusqu'au 4e siècle, le baptême à la place des morts. Sur Internet. Bon, lis ta Bible, tu ferais mieux de lire ta Bible. C'est comme par exemple, vous savez, c'est terrible en ce moment. Quand vous avez la moindre des maladies, plutôt que d'aller voir un spécialiste, un homme qui a fait des années d'études au sujet des maladies, non, même sur Internet. Jamais le prix Nobel de la médecine va être accordé à un site Internet médicaux machin patacoufin. C'est des trucs... Non, il faut aller chez le spécialiste, chez celui qui sait. L'apôtre Pierre, il savait. Amen. Pourquoi il savait? Parce que sa profondeur rejoignait la profondeur de la parole de Dieu. Prenez Inierski, Claude Inierski. Quand j'ai entendu qu'il donnait la date de la venue de Jésus, j'ai su immédiatement que c'était faux. Il peut avoir tous les arguments qu'il veut, faire des montages extraordinaires. C'est faux. Parce que la substance de cette révélation n'avait aucune solidité. Aucune solidité par rapport à celle de Jésus qui dit « Nul ne sait ni le jour ni l'heure ». Alors après, il peut arranger en disant « Oui, mais il y a le jour du Seigneur, puis le jour de l'Éternel, et puis ci, et puis ça, puis les calculs avec les planètes et la lune rousse à bout filtre et tout ce que vous voulez ». Quand on vient me dire que je suis responsable des maladies des membres des frères et sœurs de la communauté, parce que j'ai pris la sainteté d'indignement, hein, déjà c'est quelqu'un qui juge qui dit une chose comme ça, je sais immédiatement que cette pensée est fausse à cause de sa substance. Elle n'a pas la même densité, n'a pas la même substance que la parole de Dieu qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, 27-29, qui dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même et non pas contre les autres. » Donc, immédiatement, parce que je vois la substance de la parole, je vois qu'elle n'a pas la même substance que la parole de Dieu. La révélation est donc fausse. Elle n'a pas la même densité que la parole de Dieu. C'est facile à démontrer. Cette accusation était donc une pensée qui venait tout droit d'où? Du séjour des morts. Contre moi. Pourquoi du séjour des morts? Parce qu'on les embête, les morts, en ce moment. Elle n'a pas pu prévaloir, elle n'a pas pu l'emporter sur moi, parce qu'elle n'a pas la qualité divine des révélations données par Dieu dans la Bible. Je vous ai parlé de contrôler les pensées ou les révélations qui vous viennent avec trois critères, leur forme, leur qualité. On a vu la forme, la profondeur, on a vu la qualité, la substance. Maintenant, la vitalité des pensées qui vous viennent. Est-ce que ça vient de Dieu ou pas? La vitalité, ça signifie... Quel sentiment imbibe la pensée qui vous vient? Cette pensée, cette révélation, est-elle constructive? Vous allez me dire, mais toutes les prophéties ne sont pas toujours constructives. C'est vrai, des fois ça annonce des catastrophes. Mais même si ça annonce des catastrophes, mais même si ça annonce des corrections, ça va dans le sens de la construction, de l'édification des fidèles. Si oui, si ces pensées, si cette révélation possède de la vitalité, elle aura donc de la vie, c'est-à-dire qu'elle va se manifester, elle va croître, elle va se développer dans le sens qu'elle dit. Elle va s'étendre, elle va être créatrice. Ça va poser des actes positifs qui vont en découler. Elle va cette parole, cette pensée, cette révélation va attirer à elle tout ce qui est nécessaire à son développement complet. Il n'y a rien qui peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Où sont les milliers d'âmes au portail? Il n'y en a pas. Au contraire, leur groupe se divise. Par contre, si la pensée ou la révélation est destructrice, c'est-à-dire si son essence est sans vie, eh bien, elle contient en elle-même le germe de sa propre dissolution et de la dissolution de ceux qui y croient. Et ça se passe dans le temps. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser impressionner. Nous avons trois critères, trois témoignages, pas un, trois témoignages. La forme, la qualité et la vitalité. Si déjà il n'y a pas la forme, si déjà il n'y a pas la qualité, qu'est-ce que vient faire la vitalité là-dedans? Il n'y a pas de vie là-dedans, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Elle mourra. Mais au cours du processus de sa mort, de la mort de cette révélation, de cette idée, de cette pensée, elle va apporter un mal-être. Elle va apporter des maladies. Elle va apporter des accidents. Regardez le mal-être que Claude Inierski apporte dans l'Église de Jésus-Christ en ce moment. Toutes sortes de formes de discorde. Vous voyez? Là, je suis en train de vous expliquer des choses qui ne sont pas enseignées dans les écoles bibliques. Et c'est bien dommage, parce que c'est bien qu'on leur enseigne et qu'on nous enseigne dans les écoles bibliques le grec, l'hébreu, le nom de la sœur de Moïse, en quelle année Josué a fait ceci, c'est très bien. Mais dans la pratique, ça, ce sont des choses pratiques. Il n'y a jamais rien ni personne, à part Jésus, qui ne soit ou qui ne dise que le bien ou que le mal. C'est toujours un peu mélangé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut tout juger. Même les prophéties, il faut les juger. Notre capacité à différencier le bien du mal réside dans notre capacité à manifester une pensée en bien ou en mal. Pas seulement à la dire, mais à la manifester. Mais ceux qui ont le discernement, ceux qui connaissent, ceux qui voient, qui savent qu'il y a ces trois critères et qui les utilisent, ils n'ont pas besoin d'attendre que ça se manifeste. C'est tout de suite. Paf! Camille a barreau des velles, lié. Vous voyez, si Raphaël n'était pas décédé juste avant cette histoire, il aurait foutu un coup de sabre là-dedans immédiatement. Mais Dieu a voulu que ce soit nous qui nous débrouillons. Gloire à Dieu. Si dans ce que nous manifestons, dans la pensée que nous manifestons, dans la révélation que nous manifestons, il y a de l'harmonie, il y a de la constructivité à la gloire de Dieu, alors nous manifestons le bien. Si notre pensée engendre la discordance, là nous manifestons le mal. J'ai essayé d'expliquer ça, mais la réponse a été, ce que je dis c'est « Ainsi dit le Seigneur, rien ne doit être changé, même pas une virgule ». Cette réponse n'a ni la forme, ni la qualité, ni la vitalité de la parole de Dieu, selon 1 Corinthiens 14, 29, que je vais vous lire quand même, parce que c'est la parole de Dieu. Je préfère vous lire la parole de Dieu que vous citer la parole des ânes. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Jugent! Alors, comme le jugement que je portais en douceur, en gentillesse, n'était pas reçu, ben j'ai attendu. Et comme j'ai vu que cela ne s'atténuait pas, mais qu'il y avait durcissement, eh bien, j'ai décidé, conduit par le Seigneur, de laisser la place à celui qui se prétendait aussi pasteur ici, qui est parti d'ailleurs, et je n'ai pas besoin de dire, comme Lafayette, qui m'aime me suivent. Je n'ai pas dit qui m'aime me suivent. J'ai dit, je laisse la place avec Michon, on se retire. C'est enregistré. Qui m'aime me suivent, je n'ai pas eu besoin de le dire. Ceux qui aiment la vérité ont suivi aussi naturellement que les abeilles vont vers les fleurs. La fleur n'a pas besoin de dire, venez vers moi. Non. La fleur, elle est là et les abeilles viennent. C'est tout. C'est une question de nature. Je ne veux pas vous parler de certaines mouches et là où elles vont. mais parce que je suis poli, hein. Mais c'est une question de nature. Alors, ce que nous voulons, est-ce que c'est bien Dieu qui le veut? C'est ça la question. Comment le savoir? Avec les trois critères. Étudiez-en la forme, étudiez-en la qualité, étudiez-en la vitalité. Mais n'accordez aucune pensée aux personnes, aux lieux et aux choses. Ça aussi, c'est un critère. Mais quand même, c'est incroyable. Il me semble que je l'ai déjà dit 1000 fois, ici, à la chapelle, dans les églises, partout. Mais qui écoute? Voilà, il y en a beaucoup qui ronflent, hein, parce qu'ils ont joué à Dofus toute la nuit. N'accordez aucune pensée aux personnes, aux lieux et aux choses. Quand Dieu vous dit quelque chose, parce que les personnes, les lieux et les choses n'ont pas de place dans l'absolu. L'environnement, par exemple, l'environnement que vous désirez, contiendra absolument tout le nécessaire pour les bonnes personnes et les bonnes choses apparaîtront au bon endroit et au bon moment. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Louez le Seigneur. On n'a pas de souci à se faire. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous souciez pas du boire, du manger, de comment vous serez habillé, de ceci, de ça. On s'en fout. On s'en fout. Ayez simplement la foi que Dieu dirige toutes choses. Amen. Et que le séjour des morts ne prévaudra pas contre vous tant que vous êtes une pierre vivante de l'église de Jésus-Christ et non pas des briques de Babel, des briques de révolte, des briques de suspicion. Mes frères et sœurs, ce que vous pensez démontre et détermine la qualité de votre esprit. Et la qualité de votre esprit détermine et démontre vos capacités mentales. Mentales. Regardez une personne. Regardez la vie, choisissez une personne que vous connaissez, regardez sa vie, regardez ses rêves, écoutez ses aspirations et regardez ce qu'il a accompli dans sa vie. Eh bien, vous allez avoir une belle addition avec un beau résultat de ce que son esprit vaut réellement. Ça va ensemble. Ça va ensemble, mes frères et sœurs. Et que personne ne vienne me dire, oui, mais moi, je suis un cas parce que j'ai eu des ennemis qui m'ont séduit, hein, un espèce de pervers narcissique qui m'a séduit et qui m'a empêché de m'accomplir et qui a détruit mes rêves et mes aspirations. Ah, oh là 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 là. Laissez ces excuses de ratage à Adam et Ève qui accusent les autres pour justifier leurs fautes et leurs échecs et leurs bêtises. Voilà. Nous sommes tous responsables. Je vous ai toujours dit, vous êtes des gens responsables. Je vous apporte la parole de Dieu, mais vous êtes responsables. Si ce que je vous dis est faux, vous êtes responsables devant Dieu. Moi aussi, bien sûr, je suis responsable. Mais vous, vous êtes responsables. Si c'est faux, ce que je vous dis, fuyez! Pourquoi il reste? Fuyez, c'est un endroit maudit si ce que je vous dis est faux. Nous sommes responsables de tout! Pas seulement des affaires spirituelles, mais de absolument tout. Nous ne sommes pas des gamins. C'est fini, nous ne sommes pas des enfants. Et mes frères et sœurs, ce qui nous arrive, eh bien c'est un grand bien. C'est un grand bien. C'est comme un bébé qui va naître. C'est un grand bien. J'ai une de mes amies à Fermont qui vient d'accoucher d'un beau bébé. C'est un grand bien. Pendant des mois, elle a mis sa photo avec son gros ventre qui devenait de plus en plus gros, de plus en plus gros. Je dis, elle va éclater, la pauvre sœur, c'est pas possible. Elle a des 18 tipliclouplés. Hein? Ben non, c'était juste un. Et là, il vient de naître. Eh ben, elle a dû souffrir pour le faire sortir, celui-là, parce que c'est... Ah, merci Seigneur, je ne suis pas une femme, ça m'arrivera jamais. Ça doit faire mal, hein? Eh ben, ça fait mal, oui, mais quel bonheur ce bébé! Sur aucune photo, vous voyez qu'elle fait la tronche. Elle est pleine de sourires, de joie, d'enthousiasme avec ses photos magnifiques de son bébé. Quand un bébé va naître, ça peut faire du mal. Mais on s'en fout. Le bébé arrive. Alléluia. Quand je dis qu'on s'en fout, bon, il y a quand même un petit peu de stress et de... J'imagine, hein. Mais le but, c'est quoi? C'est le bébé qui arrive. C'est comme le grain de blé. Le grain de blé, on dit, il faut qu'il meure pour qu'il puisse porter, n'est-ce pas, un épi avec 100 grains. Oui, mais il y a autre chose encore avec l'histoire du grain de blé. Il n'y a que le grain de blé qui reste. La tige, on la fout au feu. Ou on la donne à bouffer aux vaches. Les feuilles, c'est jeté. La balle, cette peau qui entoure le grain, il est jeté. De même, tout ce qui est utile à la naissance du bébé, c'est jeté. Le cordon ombilical. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui garde le cordon ombilical, qui le met dans son salon sur la cheminée? On le fout à la poubelle. Le placenta. Vous allez garder ça dans un bocal pour montrer ça à table, à vos amis, quand ils viennent bouffer. Oh, regarde, c'est le placenta. Pas du tout, c'est jeté, allez du balai. Pourtant, c'était utile. Est-ce que c'était pas utile, le placenta? Est-ce qu'ils sont pas utiles, les faux prophètes? Oui, ils sont utiles, les faux prophètes. Merci Seigneur pour les faux prophètes. Ça montre où sont les vrais. Alléluia! Mais le placenta, on le fout en l'air. On le garde pas. On garde que le bébé. En ce moment, on vit les dernières contractions, mes frères et sœurs. Ça fait mal. Mais on sait pourquoi. Amen. On sait pourquoi. Vous voyez, ça c'est bon. Ça c'est bon. Nous avons le contrôle. Parce que nous sommes sous haute protection. Le séjour des morts est en colère contre nous à cause de tous ces baptêmes que nous faisons à la place des morts. Mais ils ne peuvent pas prendre le dessus sur nous. Par contre, il peut prendre le dessus sur ceux qui sont contre la révélation. C'est quand même bizarre. Mais c'est comme ça. Ce qui arrivera doit arriver, ça va arriver, c'est tout. Et c'est tout. Ceux qui ont des actions inspirées par des idéaux élevés, qui glorifient Dieu, qui donnent du bien aux autres et qui leur apportent une satisfaction à eux aussi, n'obtiennent pas les mêmes résultats que ceux qui désobéissent à l'élémentaire. Qu'est-ce que c'est l'élémentaire? L'élémentaire, c'est 1 Corinthiens 11, 27, 29. Non, c'est pas ça. C'est l'élémentaire, c'est 1 Corinthiens 13, 5, 6, pardon. En tout cas, l'élémentaire que je vais vous citer ce matin. 5, 6. 1 Corinthiens 13. 5, 6. La charité, c'est-à-dire l'amour est patient, plein de bonté, la charité n'est pas envieuse, l'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne se rit pas, ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. Ne soupçonne point le mal. Mon Dieu, ne soupçonne point le mal. Ceux qui soupçonnent le mal, ils cachent des intentions égoïstes. Ceux qui soupçonnent le mal ont des arrière-pensées qui ne viennent pas d'ailleurs que des profondeurs du séjour des morts. Et ils récolteront leurs semences. Le monde est devenu fou, mes frères et sœurs. Et une grande partie des religieux sont devenus fous. Qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Moi, il y a belle lurette que j'écoute plus les folles. Ni les folles spirituelles, ni les folles ding, 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 sous le chapeau. Non, j'écoute plus. Les suspicieux et les suspicieuses, je les écoute pas. Qui voient le mal là où il n'est pas. Je n'écoute plus les accusateurs semblables aux tricoteuses de la Révolution française, ces sales bonnes femmes. Parce que c'est vrai, ce proverbe-là aussi. Il est vrai, il n'est pas dans la Bible, mais il est vrai. Tu veux voir d'où vient le problème? Cherche la femme. Tu veux voir le problème? Cherche la femme. Ce n'est pas du misogynisme, c'est une constatation. Et elle se constate tout le temps. Pourtant, une femme vertueuse, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et je remercie Dieu d'avoir trouvé la Michou. Amen. Amen. On applaudit la Michou. Ce matin, elle nous a encore sauvé la machine à laver. Parce que quelqu'un avait donné un truc avec des ficelles, des machins, ça avait tout bloqué. Elle m'a dit, Michel, écoute, je crois qu'elle est foutue, ça sent le cramé. Alors, prie. Alors, on a prié. Vous vous rendez compte, on prie même pour la machine à laver. Et bien, on a prié. Elle est allée, elle a trouvé la solution, elle a réparé la machine à laver. Avant, on disait, il y a Philippe, mais maintenant Philippe, il est en train de nous préparer le terrain là-bas, donc il n'y a pas Philippe pour réparer la machine à laver. Alors, voilà, le Seigneur. Elle compte toujours sur le Seigneur. Amen, ça c'est bien. Mais le monde est devenu fou. Qui écoutes-tu? Moi, je n'écoute pas les dingos. Que voyons-nous? Qu'est-ce qu'on voit? On voit ce qui existe déjà. Mais qu'est-ce que vous visualisez? Parce qu'il ne faut pas seulement regarder ce qui existe déjà. C'est petit, ça. Qu'est-ce que vous visualisez? Il ne faut pas visualiser, c'est du New Age. Ah bon, vous ne visualisez jamais? Par exemple, vous, sœur, qui m'écoutez sur Internet, vous ne visualisez jamais. Par exemple, le matin, vous vous levez, vous prenez votre voiture sans avoir visualisé que vous allez aller faire des courses. Vous n'avez pas à visualiser ce que vous allez acheter. Non, vous arrivez au magasin, vous dites, « Oh, qu'est-ce que je fais là ?»« Ah, ben tiens, il y a du Nutella, je vais en acheter. »« Ah, oh, tiens, ils vendent du riz ici, ben je vais en acheter. » Non, vous visualisez, vous regardez ce qu'il y a dans l'armoire, vous regardez ce qu'il n'y a pas dans l'armoire, et puis vous dites, « Ben tiens, il faudrait que... » Et puis vous visualisez, « Il faut que je prenne du sucre. » Donc, vous visualisez. Donc, nous voyons les choses qui existent et nous visualisons celles qui existent déjà quelque part. Dans le monde de l'esprit, dans le monde qui n'est pas encore visible. Le Nutella, il existe déjà sur les rayons là-bas. Mais là, je suis en train de vous parler au sujet de ce qu'on voit pour notre avenir. On n'a pas besoin d'être des astrologues, on n'a pas besoin d'être des prophètes. On peut simplement avoir des désirs louables et les visualiser. Le séjour des morts peut essayer de vous nuire, mais il ne pourra pas. Tant que vous êtes dans l'église de Jésus-Christ en tant que pierre vivante. Car là, vous êtes sous haute protection. Et ce que vous désirez, ce que vous visualisez, c'est pareil, est une indication substantielle de ce qui va apparaître un jour dans votre monde objectif. Mais si vous ne visualisez pas, eh bien, il n'arrivera rien. Ou alors, oui, il arrivera des choses à ceux qui visualisent, puis vous les suivrez. Hein, vous êtes, alors voilà, ben, il y a beaucoup de gens, ils m'ont suivi, voilà. Et puis maintenant, ben, oh ben alors, ah, ils ne sont pas contents et tout. Ben, il fallait visualiser vous-même votre propre vie. Pourquoi vous m'avez suivi, bande de nouilles? Moi, je ne suis personne, je ne suivrai jamais personne. Est-ce que vous êtes en train de me suivre, moi? Vous êtes des pauvres minables si vous me suivez, moi. Vous devez visualiser vous-même. Vous êtes des gens responsables, vous êtes des adultes. Et si notre vision est la même, ben faisons-la. Mais si elle n'est pas la même, alors vous perdez votre temps. Les années passent vite, mes frères et sœurs. J'ai bientôt 66 ans, le 5 février. Hein? Voyez, le temps passe très vite. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, pour ne pas le citer, c'est Marc Crozin, il m'a dit, « Oh, dire, tu n'en as plus pour 25 ans à vivre, mais qu'est-ce que je vais faire quand tu seras mort? Qu'est-ce que je vais m'embêter ?» J'ai dit, « Mais je n'ai pour moins de 25 ans à vivre. Tu plaisantes, 25 ans, je ne veux pas vivre tout ça. Allez, 9-10 ans, pas plus, et encore. Par contre, je veux les vivre bien, avec des gens que j'aime et qui m'aiment. Amen. C'est ça que je veux. C'est ça que je visualise. Et si vous visualisez la même chose, eh ben c'est parfait, ça va être merveilleux. Notre Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Ce que vous désirez, ce que vous visualisez, c'est une indication substantielle de ce qui va apparaître un jour dans votre monde objectif si vous demeurez fidèle à votre idéal. Et non pas... Vous savez des gens qui sont comme... Ils sont portés par tous les vents, de machin... quand je parle des vents, je parle des vents, hein, je parle pas des cassoulets. Le vent, voilà. Hein, et ils sont emportés dans tous les sens, et puis une petite prophétie par là. Et il va y avoir des milliers de personnes, j'ai vu, devant le portail du château. Quelques temps après, comme ils s'aperçoivent que c'est faux, « Ah oui, non, ça peut être n'importe quel portail. » Ah bon? Que notre Dieu est en train, mes frères et sœurs... Il est en train de tisser notre futur à partir des plans qu'il nous a inspirés et auxquels nous devons accorder des crédits. Nous devons y croire. Et ces plans, ils sont issus de quoi? De nos idéaux, des idéaux élevés, des idéaux altruistes. Nous voulons le salut des gens, nous voulons leur bien. Est-ce que c'était pas ça notre idée au départ? Est-ce qu'elle a changé notre idée? Non, elle est toujours la même. Pourquoi ces idéaux sont-ils élevés? Parce qu'ils nous ont été inspirés par Dieu. La vie n'a qu'un sens, le sens de Dieu, c'est tout. Les autres sens sont des modifications du sens unique. C'est des modifications de ce sens unique. Il n'y a qu'un sens, le sens unique de Dieu. Et puis toutes les autres choses sont des perversions dues à des égos déséquilibrés. des égaux, déséquilibrés. Et quand ils se rendront compte, ça leur fera mal, mais ce sera trop tard. Mes frères et sœurs, je vous encourage à garder les révélations du début. Relisez l'oracle. Suivez votre Dieu. Soyez des gens responsables. Et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Merci Jésus pour ces paroles qui sont, je le confesse, principalement pour les frères et sœurs de notre communauté, mais je pense que cela peut aussi aider d'autres frères et sœurs dans les églises, à gauche, à droite. Merci Seigneur de donner à chacun ce dont il a besoin au travers de ces quelques paroles. Merci mon Dieu de nous permettre d'entrer dans la paix, et si nous avons été un peu ébranlés, c'est vrai que le séjour des morts gronde, mais nous sommes vainqueurs, et plus que vainqueurs, il ne prévaudra pas contre nous. Nous te remercions Seigneur Jésus pour cela, et nous voulons entrer maintenant dans la louange tous ensemble, que ton nom soit béni. Je demanderai aux musiciens de s'approcher, que le Seigneur vous garde et me garde. Amen. Merci les musiciens.